Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Réveil culturel, à la radio ou en podcast. Notre invité ce matin est l'écrivain Sabri Loata. Après le succès de sa saga en 4 tomes, Les Sauvages, récemment adaptée en série télé pour Canal+, il revient avec un nouveau roman tout aussi audacieux sur la panique identitaire qui secoue la France de plus en plus violemment ces dernières années. Roman d'anticipation, thriller très politique, mais surtout malin et grinçant et redoutablement bien écrit. 404, c'est le titre donc du nouveau roman de Sabri Loata, édité par Flammarion. Sabri Loata qui, avec ce roman, prouve qu'il rejoint ce cercle très restreint des écrivains qui dépeignent le mieux notre époque, c'est-à-dire le cercle des Virginie Despentes et Michel Houellebecq.
Le réveil culturel. Lundi. Livre.
Même si votre écriture n'a absolument rien à voir avec Michel Houellebecq et Virginie Despentes. Bonjour Sabri Loata.
Bonjour, merci pour tous ces compliments.
C'est un roman d'anticipation, je disais, mais enfin, si peu, hein, puisque nous sommes là en 2022, après nous avoir parlé d'un président de la République française d'origine algérienne, cette fois-ci, enfin, c'est une femme qui va être présidente de la République française, mais plus que jamais, les réseaux sociaux ont été déterminants dans cette drôle d'élection. Rien n'arrête le progrès, encore moins les usages malveillants de l'intelligence artificielle qui progresse plus vite que les moyens de son garantir. Les deepfakes font fureur. Désormais, on peut faire croire n'importe quoi avec des vidéos où il est impossible de distinguer le vrai du faux. Les effets spéciaux, on peut plus les voir. Impossible donc d'authentifier une vidéo. La preuve par l'image cesse d'être une preuve. Donc, il va falloir faire avec les mirages. C'est le grand sujet de votre roman, Sabri Loata.
Oui, ça commence sur une atmosphère de calamité technologique, avec ces mirages, comme je les appelle, qui sont des vidéos truquées parfaites, impossibles à distinguer du vrai. Si je veux vous prendre, vous, Toufik Hakem, et que je veux vous mettre dans une situation embarrassante, j'ai qu'à passer une dizaine de minutes sur mon ordinateur. Donc on est dans ce futur proche où on est capable de faire, l'intelligence artificielle est capable de fabriquer des vidéos absolument parfaites avec des êtres de pure synthèse. Ce qui pose dans une société qui est déjà minée par la défiance comme la nôtre, des problèmes presque de santé publique, c'est-à-dire que la santé psychique du pays se dégrade à vitesse grand V à cause de ces fausses vidéos qui pullulent de partout. Plein de gens doivent donner des alibis. C'est-à-dire que c'est le cauchemar démocratique absolu. C'est à celui qui est accusé de faire la preuve de son innocence. Donc c'est le cauchemar du renversement de la charge de la preuve. Là, en l'occurrence, c'est à celui qui est un fantôme. Donc il doit faire la preuve de son irréalité. C'est le monde complètement dingue que j'imagine dans un futur très très proche.
Très proche. C'est ce qui rend d'ailleurs passionnant votre roman parce que on y est déjà. Hein. On n'est pas arrivé à ce stade de technologie, mais les fake news ont déjà fait et défait des régimes démocratiques.
Bien sûr, et on se souvient de ces trucs horribles en Inde avec des fausses rumeurs qui ont provoqué de vrais lynchages lancés à échelle industrielle grâce à WhatsApp. Donc des groupes WhatsApp géants qui étaient créés et des personnes qu'on croyait reconnaître et qu'on lynchait et qui n'étaient pas celles-ci. Donc évidemment, les réseaux sociaux donnent une sorte de force décuplée au phénomène immémorial de la rumeur qui se propage et qui provoque des victimes innocentes.
Et comme vous êtes depuis quelques années installé aux États-Unis, c'est-à-dire dans le pays de Donald Trump, on se dit que vous avez été vraiment nourri par tout ce qui se passe aujourd'hui.
Le vrai déclic du livre, ça a vraiment été pas tellement l'élection de Trump, qui m'a surpris comme absolument tout le monde, mais plutôt une conférence de presse de son attaché de presse, ou plutôt d'une de ses communicantes qui s'appelle Kellyanne Conway, et qui avait fait une conférence de presse où devant des faits qui lui déplaisaient, avait parlé des faits alternatifs. Et là, je me suis dit, bon, alors ça y est, on est dedans, en fait. C'est-à-dire que la première puissance mondiale au sein de laquelle je vis, comme un parasite sur le dos du dragon, et là, en l'occurrence, je me suis dit, on est rentré dans la post-vérité. Comme tout le monde, hein, on a utilisé ce terme, post-vérité, et je me suis dit que c'était du pain béni pour le romancier pervers que je suis.
404, alors c'est le titre de votre film, ça n'a rien à voir bien sûr avec la voiture, même s'il y a une 404 à un certain moment, à un moment clé d'ailleurs de votre roman, ça n'a rien à voir aussi avec le 404 de page introuvable. 404, c'est un logiciel que l'héroïne de votre roman tente d'imposer pour contrer justement les mirages.
Donc ce personnage qui s'appelle Alia, qui est une polytechnicienne, qui vit en Californie depuis une dizaine d'années, où elle a travaillé dans des laboratoires d'intelligence artificielle, donc c'est vraiment une très grosse tête, rentre en France avec ce qu'elle pense être l'antidote au mirage, c'est-à-dire à ces vidéos truquées. Et son antidote consiste en une application de live streaming, donc du direct pur, qui est impossible à falsifier.
Mm-hmm.
Donc,
enfin, et impossible aussi à conserver.
C'est la contrepartie négative de cette garantie d'authenticité qu'elle propose. C'est malheureusement qu'on ne peut pas enregistrer les vidéos. Et quand on ne peut pas enregistrer les vidéos, ça a l'air de rien comme ça, mais ça va avoir des conséquences terribles. C'est-à-dire le remède va s'avérer peut-être pire que le mal qui prétendait guérir.
Alors c'est un roman sombre, alors qu'il se présentait comme une farce. Bien sûr, on ne va pas spoiler votre roman Sabri Loata, et encore moins sa fin tragique sur fond d'un désordre national, une tragédie française de la partition et de la séparation ethnique, pour reprendre vos mots. On va parler plutôt du cadre de cette histoire, l'Allier, pile au centre de la France profonde et profondément divisée, et surtout des personnages. Commençons par les personnages, par les protagonistes de 404. Vous commenciez à parler d'Alia.
Ouais.
Elle est comment, Alia? C'est elle l'héroïne?
Ouais, Alia, c'est vraiment à un moment. Donc Alia, c'est un de ces personnages surdoués. Moi, j'adore les personnages qui sont un peu héroïques, qui sont, comme on dit chez moi, bigger than life. Mmh. Et là, Alia, c'est vraiment un personnage qui est bigger than life, même physiquement. Elle mesure 1m79. Elle est très athlétique et elle a ce côté américain, comme on dit là-bas, valédictorien, c'est-à-dire qui est fort dans tous les matières. Quelqu'un vraiment qui est un surgissement comme ça. Je pensais beaucoup, paradoxalement, à un personnage de Philip Roth dans Pastorale américaine. Swede, le personnage héroïque, le juif blond qui est la fierté de tout le quartier des héros. Je pensais à ça, à ce personnage qui est vraiment fort partout et qui arrive avec une grosse intelligence et qui arrive et qui va se heurter à la réalité qui est toujours beaucoup. Enfin, souvent les gens très intelligents ont du mal avec la réalité la plus basique et elle va se prendre la réalité la plus basique en plein dans la tête, quoi. Enfin,
on parlera de son histoire et de ses origines un peu plus tard. Continuons notre revue des personnages de votre roman Ali.
Ali, c'est l'homme du sous-sol dostoïevskien. C'est celui qui, il est plein de mauvaises pensées, c'est un loser, je pense, c'est un loser, en fait. Oh,
surtout un amoureux solitaire.
Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a un rapport, c'est pas exactement de l'érotomanie, c'est plutôt une obsession, voire une idolatrie vis-à-vis de Alia. C'est-à-dire que c'est son camarade de classe, ils se sont pas vus depuis 20 ans. Alia a dû penser à lui 3 ou 4 fois. Ali, tous les jours. Pas une seconde ne passe sans qu'il pense à Alia. Donc c'est un amoureux transi. C'est une plus jolie façon de le dire que loser.
Et pourquoi cet ancien camarade d'université d'Alia qui a fait une prépa littéraire se retrouve cuisinier?
Parce que, pour une raison un peu gênante, qui est que Alia lui a dit un jour, comme ça, innocemment, en passant, qu'elle pourrait avoir un orgasme si jamais un homme lui faisait bien la cuisine. Et Ali a gardé ça en tête, et quand il a eu des petits problèmes d'orientation, il s'est dit, et si je me mettais à la cuisine? Oui, c'est ce genre de psychopathe un peu, mais voilà, de psychopathe, de sociopathe plutôt.
Ali, on passe à Rachid.
Rachid, c'est le père de Alia. Mmh. Donc c'est un peu un militant berbériste, c'est un peu un de ces Kabyles qui vit dans le centre de la France et qui en fait est complètement français, voire franchouillard, et qui a un
drapeau. Il s'applique à être plus français que les Français, hein.
Ouais, c'est vrai, il fait preuve de beaucoup de zèle.
Tout en étant sincère, d'ailleurs.
Ouais, c'est ça que j'allais dire, c'est le zèle, ça donne l'impression qu'il est hypocrite. Pas du tout, il est sincère, il aime vraiment le terroir, il aime le pays au sens pas de la nation, mais de la réalité concrète, matérielle, charnelle du territoire, du terroir dans lequel il vit. Et donc c'est le père d'Alia, c'est surtout un homme qui a grandi à l'ombre d'un père héroïque qu'il a jamais connu, puisque c'est un père qui était un moudjahid du FLN de la 7e wilaya, c'est-à-dire en France, ceux qui combattaient pour l'indépendance, mais depuis la France, et donc qui est mort jeté avec d'autres Algériens dans la Seine le 17 octobre 61.
Mehdi.
Mehdi, c'est le personnage qui me ressemble le moins, c'est le personnage complètement positif.
Vous voulez dire que vous ressemblez à Alia, Ali et Rachid réunis,
Sabri Loata? Ouais. Celui à qui je ressemble le plus, il n'est pas encore arrivé dans la liste. Mais je pense que le personnage de Mehdi, c'est un personnage vertueux, c'est un personnage. Il y a cette anecdote que j'adore sur les âmes mortes de Gogol. Il avait écrit Les âmes mortes où il prend un peu le point de vue du diable. Et le diable étant inventif, créatif, plein d'intelligence et de ruse, son roman est passionnant. Les âmes mortes, tout le monde adore. C'est à la fois hilarant et tragique. C'est un sommet de tragique comédie. Et ensuite, il s'est dit, il a eu une crise mystique, il était tourmenté par des idées religieuses, et il s'est dit, je peux pas faire ça, je peux pas. En fait, je me suis mis au service du malin. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est raconter une histoire positive. Et il a écrit Le Pèlerin, qui est un roman nullissime, donc il ne reste pratiquement rien. Tout ça parce qu'en fait, on fait pas de bonnes histoires avec l'édification morale.
Voilà, pour Mehdi, Kader. Ah, Kader.
Kader, c'est compliqué parce que c'est pas vraiment un personnage à ce niveau maintenant. C'est plutôt quelqu'un qui a piraté mon roman. C'est-à-dire qui arrive au milieu du roman et qui a choisi la direction dans laquelle le roman irait. Donc c'est un personnage, d'une certaine façon, dont le projet, qui est un projet, je sais pas si je peux le dire, mais qui est un projet proche, à mon avis, de la vengeance. Quelque chose de, au fond, c'est quelqu'un qui est animé par, il déteste la haine, par exemple. La haine, ça fait faire des choses idiotes aux gens, ça leur enflamme la tête et ça les jette les uns contre les autres.
Mais c'est le plus américain des personnages de 404, moi, je trouve.
Je pense qu'il est aussi américain que Alia, en fait. Mais oui, c'est vrai que déjà il y est depuis beaucoup plus longtemps. C'est quelqu'un qui c'est un génie, c'est sûr, un génie des maths, un génie au sens intellectuel, qui est devenu milliardaire. Ça à cause grâce aux bitcoins. Il y a des fortunes comme ça qui se font dans la tech. Donc c'est quelqu'un qui a investi très très tôt massivement dans les bitcoins. Et il a eu cette bonne intuition. Donc il faisait avant des algorithmes de trading. C'était un trader. Et c'est quelqu'un qui évidemment, comme tous les gens qui adorent le pouvoir, ne pense qu'au pouvoir tout le temps, ne pense qu'à l'argent tout le temps. Si argent et pouvoir sont synonymes, ce qui en l'occurrence est souvent le cas pour lui.
Et c'est pour se venger aussi de ce système universitaire qu'il avait exclu.
Qu'il avait plus exclu. Il a été accusé quand il était en prépa d'avoir violé une fille. Mmh. Il a dit que c'était pas le cas. Il a été défendu par la grand-mère d'Alia d'ailleurs, qui était une avocate. Et finalement, on lui a fait comprendre qu'il n'était pas souhaitable qu'il reste dans l'établissement.
Tout aussi emblématique de l'époque, les jeunes protagonistes de 404, on arrive à Nesrin et le Fennec.
Nesrin, la première fois qu'on la voit, elle a un téléphone portable coincé dans le bandeau de son voile. Et c'est un personnage...
Le voile hijab, on peut le dire.
Le hijab, oui, c'est vrai. C'est pourquoi on dit toujours voile, d'ailleurs. C'est un hijab, c'est vrai. Et moi, c'est un de mes personnages préférés. Elle est vraiment... Elle est très grande gueule. Elle fait preuve de beaucoup de mauvaise foi, mais elle argumente très très bien. Ce qui, à mon avis, est souvent le cas des gens qui argumentent très bien. Et elle est, c'est une jeune tête brûlée qui fait partie un peu de la famille et qui va se retrouver dans... Parce qu'on n'a pas dit où tous ces personnages se retrouvent.
On parlera bien, le lieu d'abord. Les personnages, le lieu ensemble.
Donc Nesrin, elle incarne un peu aussi une forme de jeunesse qui existe beaucoup sur Twitter. Notamment, je suis beaucoup, j'ai pas de vrai compte à mon nom sur Twitter. C'est beaucoup trop dangereux.
Donc
j'espionne avec des faux comptes. Et un de mes faux comptes, c'est un peu tout le Twitter rebeu, un peu que je suis. Tout le Twitter qui se scandalise et j'adore vraiment Twitter. C'est vraiment, parce que beaucoup de gens avaient pas du tout la parole avant Twitter. Mais pas du tout. Et encore aujourd'hui, il y a une parole qu'on entend que sur Twitter. Moi, ça m'intéresse de regarder ce que c'est, quoi.
Et le Fennec, enfin, pour terminer?
Et le Fennec, dont on saura jamais le vrai prénom, c'est son surnom parce qu'il porte toujours un maillot de l'Algérie.
Tout à fait français. Tout en étant français.
C'est le cas typique des Kamel Daoud, les hyper algériens.
Ouais.
Donc ils sont plus algériens que les Algériens, alors qu'ils sont allés à l'Algérie deux fois et qu'ils connaissent surtout la France.
Voilà. Et les auditeurs auront compris depuis le début que tous les personnages de votre roman très français sont arabes. Sabri Bata.
Ils sont ethniquement arabes, si vous voulez, mais ils sont français. Ouais. Enfin, c'est pas. Je veux dire, oui, j'ai fait. Il y a beaucoup de romans français où il y a pas du tout d'arabes. Je fais pas le compte. Vous voyez, donc tous les personnages sont. Ils appartiennent tous à peu près à la même famille ou à peu près approchants. Donc, et c'est vrai que j'ai tendance dans ce bouquin à vouloir faire le portrait d'une communauté. Oui.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Je suis fier comme l'Algérie, comme dit Mustapha Fiachet. Je suis fou comme un PLSD, trop vert dans la vallée. J'ai ma bande, et ma bande c'est mon sang OP pour te la mettre. Et si je bande, c'est pas ma faute, tous les arabes bougent la tête. Puis, joyeux quand on tisse, carré dans nos bis, que des 10, je suis ni le joint et le tisse. Arrache ou je veux lisse, comme ma gang. Le mental gainé, ouais, le cœur gainé. Et attends, je suis ni entêté, parce qu'elle veut t'aider. Et maintenant, monte le son et stream. Et même si t'es chim, t'es maton. Mon n'est pas un dream, ouais, le son est green et le maton. Je suis mis devant son zen et je crie. Liberta, matata, Akunya mama, à toutes les chmetas, ah la la, fini de jouer les cons, je remets tes petits ponts, c'est tes aides, tartes ou tes aides, ego tous tes aimes, dans l'action, genre déploie mes ailes, je prie et je finis seul, dans ma ponce, nique tout sur la scène, et je fais bander la selle, yeah! Tahia, tahia, pene, tahia, tahia, jadei, tahia, tahia, pene, tahia, tahia, jadei, tahia, tahia, pene, تحيا تحيا جزائري تحيا تحيا بيني تحيا تحيا جزائري
Parfait pour accompagner la lecture de votre roman Sabri Loata, votre dernier roman 404 aux éditions Flammarion PNL. Tahia PNL, Tahia Jazair. Est-ce que vous comprenez d'ailleurs les paroles de PNL? Moi, je dois vous avouer que j'en prends rien. Il faut vraiment que j'ai les paroles sous les yeux avant d'y commencer ma carrière de journaliste dans le hip-hop. Là, je suis complètement dépassé.
Yankli, ça veut dire client.
Ouais.
Bikrav, ça veut dire... On va pas tous les faire, mais non, je comprends pas beaucoup plus que vous.
Non, mais quand il dit que la MIF, c'est tarteré, donc on comprend qu'ils sont des tarterés, c'est
compris.
Alger un peu trop corsé, ça c'est pour jouer avec leurs origines, puisqu'ils sont algéro-corses. Bon, tout ça pour dire qu'on a oublié quand même un personnage central de ce roman, c'est Dinar.
DJ Dinar,
ouais. Ouais.
Oui, j'ai imaginé un personnage de rappeur très très successful. Je pense que
pas
c'est
la mère de PNL.
Ouais, pour moi franchement, en vrai, je sais pas si tu devrais le dire, mais ce serait un peu plus Soul King l'inspiration.
Ouais, d'accord.
Voilà. Donc plus rail international, plus moins rap je sais pas, bon. Mais donc algérien, d'origine algérienne, c'est né en Algérie quoi, pas comme nous, pas comme moi. Et qui arrive en France en épousant une vilaine pour les papiers. Enfin, c'est pas un gentil hein, comme personnage, hein, c'est un rappeur quoi, mais qui a un succès phénoménal et qui va graviter dans tous les personnages qui vont se retrouver autour du projet 404.
404 parce qu'on va utiliser sa célébrité pour tester,
lancer la plateforme.
Pour lancer cette plateforme. Alors, on rappelle que quand même ce roman commence par une drôle d'histoire politique hein, je veux dire que la candidate de la présidentielle française en faisant la tournée des capitales comme le font tous les candidats qui peuvent accéder à la magistrature suprême, elle passe par Alger, évidemment, avec la communauté algérienne. Et ce qui se passe, c'est que elle va obtenir cette audience avec le président algérien. Cette audience n'est pas filmée, parce que voilà. Mais quand elle sort de cette audience, elle a une drôle de tête. Et puis, très vite après, en France, une vidéo circule sur le net où on voit le président algérien violenter et violer la candidate. Et donc, ça fait scandale, bien sûr.
Et ça fait surtout basculer l'élection en faveur de la candidate.
De la candidate. Sauf que cette vidéo est un mirage, une fausse vidéo.
Ouais, c'est un de ces deepfakes impossibles à repérer, impossibles à distinguer des vrais, c'est-à-dire qu'ils sont juste tout simplement beaucoup trop bien faits. Il y a d'autres vidéos concurrentes qui arrivent, mais au bout d'un moment, on ne sait plus quelle vidéo croire. Donc c'est des vidéos de surveillance qui sont censées avoir été prises dans ce salon de réception du palais d'El Mouradia. Et ça va donner lieu à ce qu'on appelle le Mouradia Gate, parce que les deux, c'est ça qui est curieux dans cette affaire, c'est que les deux disent que le viol qu'on voit sur les vidéos n'a pas eu lieu. Mais d'un autre côté, on a l'impression que la candidate, elle pourrait avoir eu intérêt. Donc en gros, on sait plus, on n'arrive plus du tout à distinguer, on n'arrive plus du tout à savoir. Et c'est dans cet état de panique, c'est cet état de panique que j'ai voulu décrire. Parce que c'est pas les deepfakes qui posent problème, c'est jamais la technologie ou la technique qui pose problème, c'est notre panique humaine en réaction aux technologies. Parce qu'on pourrait très bien les utiliser à bon escient si jamais on était des communautés plus stables.
Et là, partant effectivement de quelques faits avérés déjà pendant l'élection de Donald Trump, c'est-à-dire même quand on arrive à prouver que la vidéo est fausse, eh ben il reste toujours des gens qui pensent que fond il doit y avoir quelque chose de vrai dans cette mise en scène.
C'est la fameuse formule médisez, il en restera toujours quelque chose. C'est-à-dire que c'est comme ça que fonctionne la rumeur, c'est comme ça que fonctionne là. Et ce qui m'intéresse, c'est pas tellement la technologie, c'est mon point d'entrée dans le roman, mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle va rencontrer, en particulier des démons français, ce qu'elle va réveiller comme démons. C'est ça qui est intéressant. C'est le côté humain de la technologie, parce que sinon la technologie en tant que telle, c'est pas du tout un roman de science-fiction que j'ai écrit. Même prédire l'avenir m'intéresse pas, pour être franc. Et je j'ai pas la prétention de le faire, et je crois que tous ceux qui l'ont fait ont échoué. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est d'écrire une version particulière de l'avenir.
Voilà, et puis on revient donc effectivement au centre de la France, c'est-à-dire le lieu très symbolique où se déroule votre histoire, Sabri Loata de 404. Pourquoi l'Allier d'ailleurs ?
Parce que c'est pile au centre de la France que j'ai un peu quelques attaches familiales. Moi je viens de Saint-Étienne, donc c'est quand même pas non plus très très loin. Et puis l'Allier, c'est un département magnifique, c'est sur les contreforts du Massif central, c'est très vallonné, c'est très beaucoup de c'est le fameux bocage, donc c'est des prés, des prairies séparées par des haies vives. C'est un peu j'ai l'impression parfois que quand je pense à un paysage de français standard, d'ailleurs il y a la nationale 7 qui passe bordée de platanes, quand je pense à un paysage français standard, je pense que l'Allier devrait venir en tête naturellement. Il y a beaucoup de châteaux forts, c'est le Bourbonnais, comme on dit, c'est de là que viennent les ducs de Bourbon, donc toute une lignée droite de France.
Alors, avec le recul que vous avez, vous décrivez quand même une France au bord de la partition. Hein.
Le roman vient vraiment d'un sentiment que j'ai eu un jour, de me dire, je suis pas chez moi dans mon propre pays. Bon, je suis pas le premier à l'avoir eu, je suis pas le seul, et je suis malheureusement pas le dernier. Et en romancier, j'ai voulu aller au bout de ce sentiment, j'ai voulu explorer la vérité de ce sentiment. Ce sentiment de pas être chez soi dans son pays, qui est curieux en fait. Il y a pas beaucoup de gens qui l'ont. enfin pas beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup de pays où ça peut se passer. Ça peut se passer que dans les pays qui n'ont pas d'homogénéité ethnique, comme c'est le cas de la France, ou pour le dire autrement, ça peut se passer que dans les pays multiculturels, que ce soit la France ou les États-Unis par exemple, où on a des gens et qui, donc, dans les failles du multiculturalisme, se retrouvent un petit peu exotiques à leurs propres yeux. Et moi je sens souvent ça, un écartèlement, l'impression de pas être qui je suis, de pas m'insérer naturellement, de pas avoir ma place dans ce décor. Or moi ma conviction c'est qu'on ça devrait pas, c'est ce que je découvre en explorant la vérité de ce sentiment, c'est que c'est un scénario extrêmement violent. Mm-hmm. Mais je pense que ce que ça dit c'est que en vérité l'expérience des Algériens de France comme moi, ou de la diaspora algérienne de France, ou des franco-algériens comme vous voulez, donc en gros presque des Algériens qui n'ont pas grand chose à voir avec l'Algérie si c'est le nom, c'est que en fait on a notre place dans la mosaïque française d'une façon ou d'une autre. Moi j'essaie juste de polir le carreau particulier Algérie de cette mosaïque.
Mais oui. Vous dites que ça s'aggrave, c'est-à-dire qu'on va pas vers l'apaisement.
Non, je le dis pas. C'est plutôt ce que je vois.
Mais
il y a une différence entre le. Si jamais j'avais voulu le dire, j'aurais écrit un pamphlet. Vous voyez, j'aurais écrit un ou alors une tribune. Ça aurait été beaucoup plus efficace. Une tribune, c'est efficace. Moi, j'ai voulu l'incarner dans des personnages contradictoires qui se battent d'ailleurs pour que l'issue tragique n'arrive pas. Mais on la sent tous, cette issue tragique. On sent tous. Il y a un truc avec les Arabes en France. Il y a. Je sais pas comment le dire. Il y a probablement des mots polis pour le dire, mais. Alors on parle de désintégration, tout ça. Moi, je pense que c'est plus profond que ça. Il y a eu un crime colonial qui a duré 130 ans, que la France a, que les fauteurs de ce crime ont tout fait pour l'effacer. Et il y a une forme de trauma colonial qui perdure. Parce que toute l'Algérie, c'est pas une question. Ça concerne pas que les Algériens. Ça concerne tous les Français. Tous les Français ont un rapport avec l'Algérie. Tous les Français. L'Algérie est dans toutes les familles. L'Algérie est. Et j'ai l'impression souvent que c'est un tabou qui empoisonne. Parce qu'on. Et c'est pas qu'on n'en parle pas. Hein. On en parle, mais pour ne pas en parler. Et typiquement, on parle tout le temps. On parle de la guerre d'Algérie tout le temps. Et la guerre d'Algérie, évidemment, qu'on va trouver des salauds des deux côtés. Donc on finit par avoir un truc d'équilibre. Si vous reconnaissez vos saloperies du FLN, nous, on reconnaîtra nos méchants de l'OAS. Et en gros, on arrive à un truc comme ça. Mais c'est pas. Pourquoi est-ce qu'il y a une question musulmane en France aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'il y a eu à un moment le dé d'Alger a donné. Il y a eu la fameuse gifle du dé d'Alger, la vexation française, le coup d'éventail, et ensuite il y a eu une colonisation de peuplement. Ce qui consiste une colonisation de peuplement, c'est quand même énorme dans l'histoire. Je comprends pas pourquoi on n'a pas dans le roman national, on n'a pas fait cet aggiornamento des représentations qui nous permettrait de le regarder en face un peu. Comme les Américains le font. Je dis pas que ça va mieux là-bas, mais au moins, on se fait pas croire que l'esclavagisme, il y a eu du bon dans l'esclavagisme, vous voyez.
Est-ce que vous pensez que, comme Les Sauvages, 404, votre dernier roman, Sabri Loata, pourrait être adapté tout de suite en série télé ou en film?
Non, je crois que c'est beaucoup trop tôt de. Et puis c'est un roman très littéraire, je crois, qui existe vraiment aussi dans le jeu.
C'est dans la langue, c'est vrai, c'est très bien écrit.
C'est gentil. Et puis j'essaie vraiment surtout d'essayer de trouver une langue qui soit. Ouais, c'est toujours mon problème, c'est j'ai été éduqué un peu comme Ali et en prépa, en fait on apprend à parler bourgeois en vérité, vous voyez. Mm-hmm. Et comment faire en sorte de faire exister d'autres personnages avec cette langue qui les fait parler. Donc c'est des problèmes que j'ai eu et je crois avoir trouvé une solution.
C'est la dernière question que je voulais poser, Sabri Loata. C'est vrai que vous mettez les Arabes que vous mettez en scène dans vos livres, ce sont des Arabes qui ont fait des études et c'est vrai que ils ont pas beaucoup de place dans le champ artistique. Ils vous ressemblent, ils ont fait des hautes études, et on a l'impression que ceux qui ont fait des grandes études, qui ont réussi dans leur vie, ils ressentent plus violemment le malaise d'être arabe en France.
C'est intéressant, ça. Après, moi, je suis un cas particulier, j'habite aux États-Unis maintenant, donc.
Depuis peu, quand même.
Ouais, depuis 5 ans, quand même, ça fait. Mais c'est vrai qu'au bout d'un. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu, par exemple, avec les Gilets jaunes à un moment, c'est, on le disait, ils sont racistes, antisémites. Et Florence Aubenas, elle a dit, moi, j'ai pas entendu plus de racisme ou d'antisémitisme que dans des salles de rédaction. Donc, l'antisémitisme et le racisme existent partout dans la société. Et vouloir les réduire au milieu pauvre ou ainsi de suite. Et je pense que plus on monte dans la société, plus on rencontre un racisme qui a une particularité, c'est qu'il est beaucoup plus organisé et inattaquable.
Vous rendez d'ailleurs hommage à Florence Aubenas dans 404, Sabri Loata. Vous êtes vous-même impliqué dans l'adaptation à la télévision des Sauvages.
Comme la saison 1 a eu beaucoup de succès, on réfléchit à en faire une saison 2, mais on n'est pas du tout. Je peux pas dire.
Vous êtes content de l'adaptation
Je l'ai écrite, donc oui.
Alors, Virginie Despentes, par exemple, elle trouve que l'adaptation de Vernon Subutex est nulle. Et vous?
Non, mais ça n'a rien à voir. Elle a pas travaillé dessus. Ouais. Donc, moi, j'ai travaillé dessus avec Rebecca Zlotowski. On a travaillé main dans la main. Et donc, c'est autre chose. J'ai été présent à toutes les étapes.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
"404", le dernier roman de Sabri Loata, est édité par Flammarion. Merci beaucoup Sabri Loata d'être passé ce matin.
Merci de m'avoir invité.
Le Réveil culturel est une émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard. Ce matin, à la prise de son, Alain Joubert. Bonne journée, on se retrouve demain à la même heure.